VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Gabon, attente et inquiétude ce lundi à la veille de l'annonce demain des résultats officiels de la présidentielle à un tour de samedi par le ministre de l'Intérieur, Paco Mumbele Bebia. L'opposant Jean Ping s'est déjà proclamé élu face au chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba, dont le camp assure qu'il a gagné le scrutin. Après deux jours pendant lesquels les habitants de Libreville sont restés cloîtrés chez eux, la capitale a retrouvé aujourd'hui une activité à peu près normale selon l'AFP, même si certains commerces restaient fermés. Aucun dispositif particulier des forces de sécurité n'était visible dans la ville. On fait le point avec l'envoyé spécial de VOA Afrique sur place, Idriss Fall.
C'est une guerre de communiqués qui se poursuit. Hier dimanche, devant un parterre de militants, l'opposant Jean Ping a clamé sa victoire sans pour autant s'auto-proclamer président du Gabon.
À tous ceux qui ont fait un choix autre que celui de ma personne, je voudrais les rassurer qu'il n'y aura aucune chasse aux sorcières. Je serai le président de tous les Gabonais. C'est dans l'unité et la concorde que nous célébrerons cette belle victoire.
Pour se faire l'écho, ces militants enflammés ont entonné en chœur Jean Ping, président. Quelques heures après, le PDG au pouvoir a rassemblé ses militants à quelques encablures de la résidence de M. Ping. Le président sortant, Ali Bongo, a eu un discours plutôt modéré, appelant au calme, assurant toute sa confiance en attendant les résultats. Les militants du PDG sont aussi certains de la victoire de leur candidat.
Bien sûr et certain, il va gagner. Ali Bongo, c'est celui qui a le meilleur projet de société. Il a parlé de l'avenir en confiance, alors donc on lui fait confiance.
Les résultats sont attendus au plus tard 72 heures après le scrutin, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain mardi. En attendant, sur le déroulement du scrutin, Falilou Diallo, président du groupe des observateurs africains qui représente les ONG de 12 pays du continent.
Un vote calme qui s'est bien déroulé. Une participation massive. C'est une belle fête pour la démocratie.
Et vous pensez que les résultats, il y a des risques de contestation ou pas?
Bon, nous sommes en Afrique. Hein. Nos démocraties sont très jeunes, sont très fragiles. Donc, il y a toujours les perdants qui contestent. Mais faisons confiance à nos institutions où nous pouvons recourir pour contester les résultats. Il n'y a pas d'élection sans contestation de résultats. C'est la marche pour notre démocratie fragile.
Pour parer au pire, l'Union africaine a dépêché sur place une forte délégation des anciens, dont Sylvestre Ntibantou Gagna, ancien président du Burundi.
Pour un pays qui a su, pendant toutes ces décennies, sauvegarder la paix et la sécurité, et notre souhait est que les différents protagonistes prennent cette expérience comme venant pour consolider ses acquis.
Est-ce que vous pensez que vous serez entendu?
Nous le souhaitons et nous croyons que tous les acteurs politiques sont d'éminentes personnalités et qui donc ne peuvent pas être insensibles à des préoccupations de ce genre.
Depuis Libreville, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
En RDC, la feuille de route du dialogue politique congolais est maintenant prête avec la fin des travaux préparatoires de ce week-end à Kinshasa. Les délégués du pouvoir, de l'opposition comme de la société civile ont trouvé des points d'accord lors de ce forum qui reste toutefois boycotté par une frange importante des opposants réunis au sein du rassemblement, la plateforme politique que dirige Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS. Plus de détails avec Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est parti pour un dialogue de deux semaines, décidé par les différentes parties déléguées au comité préparatoire. La date du 1er septembre a été proposée pour le début de travaux du dialogue. Un dialogue qui risque de se tenir sans la plus grande plateforme de l'opposition, le rassemblement qui pose encore des conditions. Des conditions qui ont été rappelées même par des opposants qui ont pris part aux travaux du comité préparatoire. Les députés Jean-Lucien Boussa et le chef des délégations de l'opposition dans le comité préparatoire.
Libération effective des prisonniers politiques. L'abandon des poursuites à caractère politique. La réouverture effective de toutes les chaînes de télé et radio fermées. La restitution des biens confisqués.
Et au niveau de la facilitation, on promet de travailler sur les préalables du rassemblement. À la majorité présidentielle, on se félicite du déroulement des travaux du comité préparatoire avec l'espoir d'avoir un dialogue qui va dans l'intérêt de tous. Le professeur Nehemi Mwilanya est le directeur de cabinet du chef de l'État.
L'espoir que nous formulons, c'est qu'au 1er septembre, la famille soit rassemblée au grand complet.
Le dialogue va se tenir dans le respect de la résolution 2277 de Nations Unies. Kinshasa, Gino Reima de Top Congo pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, le gouvernement formule de nouvelles propositions pour des pourparlers éventuels sur les otages de Chibok, les écolières kidnappées par le groupe islamiste Boko Haram. Le point avec Chérubin Dorsil.
Dans une déclaration à la presse hier dimanche, le président Muhammadu Buhari s'est dit prêt à laisser Boko Haram choisir un organisme sans but lucratif comme intermédiaire dans toutes les discussions sur la libération d'environ 200 écolières enlevées en 2014 dans le nord-est du Nigeria. Monsieur Buhari avait déjà fait une offre de négociation sur le dossier l'an dernier, mais le groupe extrémiste n'a pas fait de commentaire sur la proposition. L'échec du Nigeria dans la recherche des filles de Chibok a provoqué un tollé au pays et à l'étranger. Souvenez-vous, les critiques du prédécesseur de Buhari, Goodluck Jonathan, avaient déclaré que son gouvernement était trop lent à agir. S'ils ne veulent pas nous parler directement, qu'ils choisissent une ONG reconnue internationalement, a dit le président Buhari en marge d'une conférence au Kenya. Selon le dirigeant nigérian, des négociations pourraient commencer sur un échange de prisonniers si Boko Haram pouvait fournir des preuves à l'ONG que les filles sont toujours sous son contrôle. Des négociations avec Boko Haram seraient les premiers entretiens connus du public entre le gouvernement et les salafistes, dont 7 ans d'insurrection pour créer un État islamique dans le nord du Nigeria ont entraîné la mort d'au moins 15 000 personnes.
Mali, la population a suivi de près le procès du Touareg Ahmad Al-Faki al-Mahdi à la Cour pénale internationale de La Haye. Ce dernier étant le premier Malien à comparaître devant la CPI pour atteinte au patrimoine culturel de Tombouctou au Mali. En attendant la confirmation de la peine retenue contre l'accusé, les Tombouctiens ne cachent pas leur joie. Mais ils veulent aussi que d'autres criminels ayant commis des abus lors de la crise de 2012 passent devant la Cour pénale internationale. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est au Niger qu'Almadi Al-Faki a été arrêté avant son extradition vers la Cour pénale internationale pour destruction de mausolées à Tombouctou. À l'époque, la ville était sous contrôle djihadiste avec comme chef Abou Zeid Lassana Cissé, directeur national du patrimoine culturel.
Les autorités maliennes ont été bel et bien saisies. Ils ont donné leur aval pour son transfert à la Cour pénale internationale. Donc c'est avec l'accord du Mali, ça c'est sûr. L'importance d'abord, c'est que c'est un procès inédit. Pour la première dans l'histoire, un décideur, un pilleur du patrimoine est mis devant le fait accompli, c'est-à-dire répondre de ses actes devant un tribunal juridique et judiciaire. Pour nous, c'est l'acte le plus important.
Pour bon nombre d'habitants de Tombouctou, ce procès montre combien le patrimoine culturel est important.
Il a été le cerveau de la destruction des mausolées de Tombouctou. Kourou mène actuellement 9 à 11 ans de prison. Bon, moi, je pense que ça, c'est une peine qui est trop courte pour un terroriste qui a fait d'énormes dégâts en détruisant des mausolées, des lieux de culture. Ça, c'est impardonnable. Il doit avoir une peine de mort.
Au moment où la CPI a jugé Al-Faki, certains de ses patrons se pavanent entre les hôtels de Bamako au nom de la paix et de la réconciliation.
Au lieu de s'attaquer aux vrais responsables, ceux qui sont à l'origine de tout ça, les responsables derrière qui il y avait le mandat d'arrêt international délivré aujourd'hui. Mais la communauté internationale ne peut pas fermer les yeux sur ça et courir derrière des gens qui ont détruit des choses. On peut réparer alors que des gens ont enlevé des vies. Mais on ne parle pas d'eux. C'est pas juste. Il faut que ces responsables-là soient poursuivis, arrêtés et puis ils sont connus de tous. Et si la communauté internationale ne peut pas les pointer du doigt et les arrêter, nous, on peut les faire. Qu'ils nous demandent.
À Tombouctou, les populations sont très contentes de la tenue de ce procès. Mais elles ne souhaitent pas qu'elles se limitent à Al-Faki seulement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Libye, les forces du gouvernement d'Union nationale GNA progressent aujourd'hui dans la ville de Sirte où elles attaquent les dernières poches de résistance des militants du groupe État islamique qui vendent chèrement leur peau. Les djihadistes sont désormais acculés dans un secteur de moins de 2 km2 dans la ville qui était devenu leur bastion en Libye. C'est ce qu'affirme lundi ce lundi les forces du GNA. Et pour terminer, la guerre en Syrie, les affrontements entre la Turquie et les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis dans le pays sont inacceptables. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'émissaire présidentiel américain auprès de la coalition internationale anti-djihadiste, Brett McGurk, appelant toutes les parties à cesser les combats. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.